Cette émission vous est présentée par NHCO Nutrition, laboratoire français, créateur de compléments alimentaires santé, minceur et bien-être, spécialiste des acides aminés.
La sphère neuro, Célia Morès, sur Nutri Radio.
Célia Morès sur Nutri Radio, bonjour Célia.
Bonjour Fabrice.
Ravi de vous retrouver pour ces émissions La sphère neuro et la dernière émission de la saison déjà. Ça passe vite Célia quand même, hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte.
Ça passe très 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 vite, ça file à une allure.
Voilà, c'est ce qu'on se dit tout le temps, mais croyez-moi, si vous êtes jeune, cette phrase qui vous paraît tellement bête, stupide, que vous allez voir quand vous aurez nos vieux âges, comme les jours s'accélèrent. Bref, peut-être qu'on pourrait faire une émission d'ailleurs sur le cerveau. Pourquoi l'impression que le temps passe, pourquoi on a, quand on vieillit, l'impression que le temps passe beaucoup plus vite? Mais ça, on peut, la gestion du temps, la notion du temps, on pourra en parler, non? Il y a des trucs qui se passent de manière exceptionnelle là, sur la physique quantique à ce sujet-là.
Alors la physique quantique, je m'y connais un petit peu moins parce que j'étais toujours réfractaire au cours de physique à l'école.
Ah non, pas vous.
Mais effectivement, voilà, on peut pas tout faire et être intéressé partout. Mais effectivement, oui, c'est vrai qu'il y a cette sensation du temps qui file plus vite lorsqu'on est plus âgé que lorsqu'on est jeune. Peut-être parce qu'on prend plus de temps, peut-être que parce que on a l'impression que ça va pas assez vite justement parce qu'on a envie de vieillir et que du coup, dans ce cas-là, ça va pas assez vite alors que quand on est un peu plus vieux, on a plutôt envie de rajeunir. Et donc, c'est pas tout à fait la même notion de temps aussi.
On a envie d'appuyer sur le frein, vous voyez, mais on ne peut pas. Alors, Célia Morès, docteur en neurosciences, chargée d'enseignement. Vous êtes membre du comité scientifique du réseau national des centres de gestion du stress. Je pourrais parler encore plus fort, mais non, plus vite, pardon. Et on est ravis de vous avoir chaque semaine sur Nutri Radio. Et la saison prochaine, vous serez encore sur Nutri Radio.
Ah mais bien sûr, bien volontiers, au contraire, c'est avec un grand plaisir.
Donc on est très heureux de cette nouvelle et pour les nostalgiques pendant les vacances, vous pourrez réécouter les podcasts de Célia Morès sur nutriradio.fr dans la partie médias et podcasts et sur toutes les plateformes de streaming audio. Aujourd'hui, vous avez choisi de parler d'un sujet dont on ne parle pas vraiment beaucoup et pourtant de nombreuses personnes, moi j'entends, alors vous allez me dire aussi hein, si vous avez des statistiques là-dessus qui apparemment ça concerne encore plus les femmes. Moi j'entends toujours, j'ai la nausée, j'ai envie de vomir, à quoi sont dus les vomissements? Enfin, on peut s'inquiéter, donc vous allez nous parler du vomissement, des réactions neuronales qui sont impliquées, comment ça se passe également quand on prend des antivomitis, etc. C'est votre sujet du jour, Célia.
Totalement Fabrice, bah écoutez, effectivement, alors je ne sais pas si les femmes sont plus sujettes au vomissement ou si c'est tout ou aux nausées ou si c'est tout simplement parce qu'elles s'en plaignent plus et qu'elles le disent, qu'elles ont peut-être un petit peu moins honte de dire qu'elles ont envie de vomir, qu'elles subissent des vomissements ou qu'elles ont des nausées que les hommes, c'est possible aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est que finalement, c'est quoi le vomissement? C'est tout simplement un réflexe moteur actif, c'est-à-dire qu'on va avoir le bol alimentaire. Souvenez-vous, Fabrice, on avait discuté dans une des émissions que le bol alimentaire progressait de la bouche à l'anus. Et bien là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le bol alimentaire, il va faire le chemin inverse au niveau de l'estomac, il va faire finalement le chemin inverse au niveau du tube digestif, c'est-à-dire que ce bol alimentaire va être rejeté par la bouche. Alors pour cela, il va se mettre en place des contractures musculaires, à la fois évidemment au niveau de la ceinture abdominale, d'ailleurs on le sent quand on vomit, ces contractions abdominales, mais aussi au niveau du diaphragme et au niveau des muscles respiratoires. Tout ça va permettre de rejeter mécaniquement finalement ce bol alimentaire. Alors il faut savoir que les vomissements, il y a une multitude de causes au niveau des vomissements. Il y a certaines pathologies, notamment les pathologies dites du tube digestif qui occasionnent des vomissements, les ulcères, la maladie de Crohn, etc. etc. Il y a les migraines, où il y a un lien avec les vomissements. Il y a, vous parliez des femmes, effectivement, il y a les trois premiers mois de grossesse, les femmes subissent les vomissements, donc là, il y a certainement un lien hormonal. Il y a aussi, évidemment, la prise de substances toxiques. Alors, à la fois de vraies substances toxiques. Alors, ce que j'appelle de vraies substances toxiques, c'est les substances que nous ne devrions jamais ingurgiter et consommer. C'est-à-dire l'erreur, etc., qui fait que on a pris quelque chose de toxique et que l'organisme va vouloir rejeter. Mais c'est aussi dans les substances toxiques, il faut classer aussi certains types de médicaments. C'est le cas des chimiothérapies. C'est le cas aussi des médicaments antalgiques, donc antidouleurs, comme à base de tramadol, à base de codéine, morphinique, donc c'est-à-dire la morphine aussi, qui peut être donnée en cas de douleur importante. C'est le cas aussi de certains types d'antidépresseurs qui vont occasionner effectivement des vomissements. Ensuite, vient aussi le mal des transports. Hein. Là, c'est le système vestibulaire qui est touché. Vous savez, alors pour la faire courte, je suis désolée s'il y a des spécialistes de la question qui nous écoutent, mais pour la faire courte et que les auditeurs comprennent bien, le système vestibulaire permet finalement de maintenir l'équilibre. S'il y a un dysfonctionnement de ce système vestibulaire, il peut y avoir effectivement des vertiges, des nausées, voire des vomissements, et c'est le cas notamment dans les mal des transports. Et ensuite, il y a tout ce qui vient de nos pensées, qui est plus cortical, c'est-à-dire le stress. Le stress, le fait d'avoir un entretien d'embauche, pour un étudiant de passer un examen, pour un collégien de passer un contrôle, pour quelqu'un d'avoir son évaluation annuelle au niveau de ses supérieurs, avec ses supérieurs, pardon. Tout cela peut occasionner du stress et le stress peut occasionner effectivement aussi des vomissements. Bien ensuite, donc on a parlé du mal des transports, on a parlé de tout ça, bien évidemment aussi les odeurs. C'est-à-dire que ce qui va se passer au niveau des odeurs, alors il y a des odeurs qui font consensus, on est bien d'accord qu'une odeur de vomi, une odeur de soufre ou d'œuf pourri ou de nourriture avariée va donner envie de vomir et même provoquer des vomissements chez tout le monde. Mais aussi il y a des odeurs qui nous sont plutôt spécifiques, c'est-à-dire qu'il y a des parfums qu'on supporte moins bien, hein. Il suffit de voir lorsqu'on prend les transports le matin tôt, si on a une personne à côté de nous ou pas loin qui est trop parfumé, il y a certaines odeurs qui peuvent nous occasionner effectivement un mal-être. Et c'est le cas parfois lorsqu'on reste trop longtemps dans une parfumerie. Au bout d'un moment, les odeurs vont nous donner envie de vomir. Donc là, c'est propre à chacun. Et les odeurs aussi peuvent occasionner des vomissements. Voilà à peu près tout. Les causes du vomissement que l'on peut retrouver en tous les cas les plus communes.
Bien, alors on va revenir dans un instant sur la suite de cette émission, bien évidemment. On va revenir lors de la suite de cette émission, pardon, sur les raisons. Peut-être vous en avez parlé, mais surtout ce qu'on peut faire, j'imagine. Et puis, par rapport à l'émission, surtout les circuits cérébraux qui sont impliqués. Et j'aurais quelques questions, moi, parce que, alors vous allez peut-être me dire, je suis pas médecin, mais bon, je vous les poserai quand même, parce que souvent, il y a des gens, par exemple, qui vont se faire vomir pour maigrir, ils ressentent pas le besoin, mais ils se créent cette sensation de vomissement, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, même si on a une petite idée là-dessus, bien évidemment, on marque une pause et on se retrouve juste après ceci.
NHCO Nutrition est un laboratoire français, expert en micronutrition et spécialisé dans les compléments alimentaires, formulés à base d'acides aminés. Découvrez des compléments alimentaires hautement dosés pour améliorer votre santé et votre bien-être. Des gammes complètes pour vous aider à lutter contre la fatigue, le stress, vous aider dans vos objectifs minceurs ou encore pour améliorer la beauté de la peau et des cheveux. Profitez également de conseils personnalisés sur le site nhco-nutrition.com ou en pharmacie partenaire.
La sphère neuro, Célia Morès sur Nutri Radio.
La sphère neuro avec Célia Morès sur Nutri Radio, on parle des vomissements aujourd'hui. Vous nous avez expliqué les raisons pour lesquelles on peut vomir. Madame, messieurs, vous êtes sur Nutri Radio, on parle du vomissement. J'espère que si vous écoutez cette émission en podcast, vous n'êtes pas en train de passer à table. Sinon, vous pourrez, je vous conseille d'interrompre cette partie-là. Quels sont les circuits cérébraux qui sont impliqués dans le vomissement? Et juste avant, peut-être répondre à la question que je vous ai posée. Alors, vous pouvez me dire que vous n'êtes pas spécialiste de cela, hein, mais vous savez, les raisons du vomissement, il y en a qu'on se crée cette envie de vomir, se mettant un doigt dans la bouche, vous savez, parce que voilà, ça peut être une mode pour arrêter de manger, par exemple, ou pour maigrir, ou pour pas grossir, je sais pas, moi je sais que ma mère faisait ça quand j'étais plus jeune, ça m'a traumatisé.
Alors effectivement, il y a des personnes qui font ça, donc effectivement, comme vous le dites, hein, Fabrice, c'est un truc totalement à éviter, qui est très mauvais parce que ça va occasionner des tas de problèmes de santé. Effectivement, ça peut causer, je crois, des défaussements des dents, de ce genre de choses. Donc c'est vraiment une chose à éviter. Et là, effectivement, en se mettant le doigt dans la bouche, on provoque certainement les contractions musculaires dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui fait que le bol alimentaire va effectivement être rejeté par la bouche. Après, il y a certainement d'autres systèmes, mais là, c'est peut-être plutôt cortical. Je connais mal le système, enfin je connais mal, j'avoue, ce qui se passe réellement quand on met le doigt dans la bouche, à part provoquer effectivement ces contractions, parce que c'est et que du coup, en provoquant ces contractions, ça provoque des vomissements.
Alors, il y a un petit frottement de votre côté, Célia, vous savez que c'est très sensible, je ne sais pas si vous avez vos cheveux qui sont devant
non,
le micro.
Non, j'ai pas bougé.
Bon, et ben je vous voilà, c'est bon. pas très grave, hein, mais je vous le dis, c'est un tout petit bruit que j'explique également aux auditeurs, on est en distanciel. Alors juste, les circuits cérébraux impliqués dans le vomissement sont lesquels?
Alors, il y a ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau du vomissement, on a dans le cerveau, dans une zone cérébrale qui s'appelle le tronc cérébral et très exactement le bulbe rachidien au niveau du tronc cérébral, un centre de vomissement. Ce centre de vomissement, quand il est activé, Il va donc être activé par des informations qui vont lui venir de l'extérieur. Je vais y venir comment est-ce qu'il est activé juste après. Mais une fois qu'il est activé, ce centre de vomissement, il va provoquer finalement un réflexe moteur pour justement faire en sorte que les neurones moteurs, vous savez, ceux qui sont au niveau du tube digestif, finalement s'activent. Il y a, et puis, pas que, les neurones moteurs qui vont s'activer. Et en s'activant, ces neurones moteurs, ça va provoquer la contraction musculaire dont je vous ai parlé tout à l'heure, à la fois au niveau de la ceinture abdominale, respiratoire et diaphragmatique. Et ça va provoquer donc ces vomissements-là. Alors, comment est-ce que là, ça va se passer? Ce centre de vomissement, il va recevoir les informations soit du tube digestif, s'il y a un problème comme la maladie de Crohn. Il va recevoir les informations du cortex en situation de stress. Il va recevoir les informations du système vestibulaire pour le mal des transports, mais aussi d'une autre zone cérébrale qui on appelle la zone CTZ. Cette zone CTZ, c'est quoi? C'est une zone qui capte les informations d'une substance toxique. C'est-à-dire que dès qu'il y a une substance toxique, cette zone CTZ s'active. Une fois qu'elle est activée par la substance toxique, cette zone CTZ va activer le centre de vomissement et provoquer donc des vomissements. Il va y avoir différents neurotransmetteurs qui vont être impliqués. La sérotonine. Et cette sérotonine, souvenez-vous Fabrice, on avait parlé lorsque j'avais parlé du péristaltisme, c'est-à-dire de la progression de la bouche à l'anus du bol alimentaire. C'est les cellules entérochromaffines du tube digestif qui sécrètent notamment la sérotonine. Et la sérotonine, en se fixant sur ses récepteurs, va permettre l'activation des neurones sensoriels pour permettre ce péristaltisme. Or, la sérotonine provoque aussi, peut provoquer aussi des vomissements. Dès qu'elle se fixe sur les récepteurs 5-HT3, c'est quoi 5-HT3? C'est les récepteurs à la sérotonine numéro 3. Ça peut aller provoquer des vomissements. Ensuite, il va y avoir aussi activation des neurones dopaminergiques. C'est-à-dire que le centre de vomissement, dans le centre de vomissement dont je vous ai parlé, qui est dans le bulbe rachidien, au niveau du tronc cérébral, on a des récepteurs à dopamine, les D2. Et quand la dopamine se fixe sur ces récepteurs D2, il va y avoir vomissement. C'est-à-dire qu'on va avoir la sérotonine qui va activer, en gros, provoquer la libération de dopamine et l'activation de ces récepteurs D2, d'où il va y avoir vomissement. Donc déjà, on a deux types de neurotransmetteurs. Sérotonine, en se fixant sur les récepteurs 5-HT3. La dopamine, en se fixant sur les récepteurs dopaminergiques numéro 2, donc les D2. Et on a d'autres types de neurotransmetteurs, notamment qui sont liés avec le mal des transports. C'est les récepteurs à histamine, donc histaminiques, et les récepteurs muscariniques.
Oui, tout simplement. Ça, voilà, tout ça. J'aime bien vous ajouter tout simplement. Oui, évidemment, on dit comme ça, c'est simple, mais on n'est pas nombreux à le savoir. Et voilà, Nutri Radio, ce sont des contenus rares. Merci beaucoup, Célia. On va marquer une dernière pause et on se retrouve pour la dernière partie de cette émission, déjà, qui est la dernière de la saison. C'est juste après ceci.
La sphère neuro, Célia Morès, sur Nutri Radio.
C'est les Morissi sur Nutri Radio. Alors Célia, vous avez dit tout simplement, il y en a qui ont pris déjà deux aspirines, ils ont mal à la tête. C'est pas leur quotidien, tout simplement. C'est rendre le fonctionnement du cerveau, rendre le fonctionnement neuronal simple. Et eh bien c'est la mission de Célia Morès. Et grâce à elle, eh bien vous comprenez certainement beaucoup de mécanismes maintenant dont vous êtes parfois peut-être un peu les victimes, comme les vomissements. On commence à y voir un tout petit peu plus clair. Alors quels sont les modes d'action des anti-vomissements, justement des anti-vomitifs?
Alors, il y a plusieurs modes d'action. Il faut savoir qu'il y a plusieurs types d'anti-vomitifs. Alors déjà, je vous ai dit tout à l'heure, en deuxième partie d'émission, on a parlé du mal des transports et je vous ai dit qu'il y avait l'histamine avec les récepteurs histaminiques qui étaient impliqués dans les vomissements. C'est pour ça que généralement, même si on les classe pas vraiment dans les anti-hémétiques, mais les personnes qui ont des mal des transports, généralement, on leur donne des anti-histaminiques, tout simplement pour bloquer l'effet de l'histamine. Et en bloquant l'effet d'histamine, ça bloquerait ce type de vomissement. Ensuite, si on prend les antiémétiques, alors j'ai trouvé pas mal de choses au niveau de la littérature. Donc, je vais commencer par les antiémétiques qui ne sont pas forcément des antiémétiques vrais. Émétiques, c'est vomissement. Donc, antiémétiques, c'est anti-vomissement. C'est finalement certains neuroleptiques, comme l'allopéridol, qui est donné aux patients schizophrènes, ou d'autres types d'antipsychotiques. Alors, pour vous citer le nom savant, c'est par exemple la chlorpromazine, qui sont donnés aux personnes qui font des psychoses, donc qui sont par exemple maniaco-dépressifs ou qui ont des problèmes comme la schizophrénie, etc. C'est un petit peu un effet secondaire de ce type de molécules. Sauf que, vous comprenez bien Fabrice, ce type de molécule n'est jamais donné en tant qu'anti-émétique, anti-vomitif à tout un chacun. En revanche, on va retrouver d'autres types effectivement d'anti-vomitifs. Il faut savoir que finalement, le mode d'action général, même ceux dont que je viens de citer, hein, qui sont donnés pour les personnes qui font des psychoses, finalement, ça va être de faire quoi ? Soit de bloquer les récepteurs 5-HT3 à la sérotonine, soit de bloquer les récepteurs à dopamine, numéro 2. Et en bloquant ces récepteurs, ce qui va se passer, c'est qu'on va mettre une autre clé dans la serrure. Donc, la clé dopamine ou la clé sérotonine ne pourra plus se fixer sur son récepteur puisqu'il y aura déjà une clé dans sa serrure. Donc, du coup, ça va diminuer leur effet et donc ça va diminuer les vomissements, voire les stopper. Alors, dans le langage courant, on en connaît certains. Par exemple, il y a la méthoclopramide. Alors, c'est un nom savant, mais vous allez voir que le nom courant, on le connaît. La méthoclopramide, excusez-moi, je lis ma note parce que c'est dur à retenir, va bloquer les récepteurs D2 et en revanche, activer les récepteurs T4 à la sérotonine. Pourquoi ? Parce que tout à l'heure, je vous ai dit que les récepteurs T3, numéro 3 à la sérotonine, provoquaient les vomissements. En revanche, les T4 les diminuent. Et c'est quoi cette méthoclopramide ? C'est tout simplement le primpérant. Je pense qu'on est nombreux en tant qu'auditeur, en tous les cas, moi-même, j'ai consommé plus jeune lorsque j'avais ces envies de vomir récurrentes, du primpérant. Ben, le primpérant, c'est quoi ? Ça bloque les récepteurs D2 et ça active les récepteurs 5-HT4 pour diminuer les vomissements. Vous avez aussi la domperidone. On le connaît sous le nom de domperidone puisque maintenant on consomme des génériques. Ça bloque les récepteurs D2 notamment. Et c'est quoi la domperidone ? C'est du motilium. Donc le motilium a pour effet de bloquer les récepteurs D2.
Très bien.
On a aussi le Vogalène. Vogalène ou Vogalib, on en a tous entendu parler, on peut même l'avoir sans ordonnance. Eh bien, c'est des métoclopramazines, exactement, ça fait partie des phénothiazines, donc c'est effectivement une autre classe d'antiémétiques. Et là, ils bloquent quoi, ce type de médicament ? Les récepteurs D2, les récepteurs muscariniques numéro 1 et les récepteurs histaminiques numéro 1. Donc, vous voyez, ça agit sur les neurotransmetteurs sur les récepteurs des neurotransmetteurs en prenant leur place pour que les neurotransmetteurs ne se fixent pas dessus et donc ne produisent pas leur effet vomitif. Et effectivement, c'est pour ça qu'il y a des problèmes au niveau de certaines molécules antivomitives, hein, puisque finalement, le motilium, on commence à dire que c'est pas si bon que ça pour la santé. Il y a eu des écrits, notamment la revue Prescrire, qui a sorti tout un article sur certains types de médicaments. Le primpérant, c'est pareil, parce qu'elles sont très proches des molécules, quand même, vu leur mode d'action, très proches des neuroleptiques. Et effectivement, ce n'est pas forcément bon pour la santé. C'est pour ça que prendre un médicament n'est jamais bon pour la santé. Mais effectivement, il y a certains effets secondaires qui font qu'ils essayent actuellement, les médecins, de diminuer ce type de prescription. Et enfin, évidemment, il y a un autre type de classe de molécules qui peuvent être données. Alors, c'est des molécules qu'on connaît peu, hein, le chytrid, par exemple, l'ondansetron. En fait, c'est des antagonistes des récepteurs 5-HT3. Et là, c'est plutôt des molécules qui sont spécifiquement données pour les personnes qui subissent une chimiothérapie. Hein, parce que quelqu'un qui subit une chimiothérapie, qui a un cancer, évidemment, on va lui prescrire du motilium, par exemple. Mais en plus, en cas de vomissement ou de nausées plus importantes, où ça ne va pas, on peut donner quelque chose de plus fort. Et effectivement, c'est des molécules dont on ne connaît pas le nom puisqu'elles ne sont pas prescrites facilement. Hein. Et effectivement, leur rôle, c'est de bloquer les récepteurs 5-HT3 à la sérotonine. Pourquoi ? Parce qu'il faut savoir que les personnes, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure Fabrice, mais les personnes qui subissent une chimiothérapie, la chimio, ça dépend des substances, hein, pas toutes les substances chimiothérapiques, mais certaines substances ont pour effet d'augmenter la libération de la sérotonine. C'est-à-dire que nous, quand on a envie de vomir, il y a libération de sérotonine, certes, on le sait, qui se fixe sur le récepteur 5-HT3, c'est le même mode d'action, mais les personnes qui ont un traitement en chimiothérapie, ben finalement, ce traitement peut augmenter l'effet de la sérotonine. Donc, évidemment, ça va augmenter effectivement ces sensations de vomissement et ces nausées que rencontrent ces personnes-là.
Très bien. Alors juste, vous avez dit, c'est jamais bon de prendre des médicaments pour la santé. J'ai envie de dire, moi aussi, prendre des médicaments, c'est bon pour la santé quand on est malade, quand c'est prescrit par son professionnel de santé, bien évidemment, et que ces informations ne se substituent pas hein, à la visite chez un professionnel, ni à un traitement. Je le précise parce que ce que vous voulez dire, c'est que prendre un médicament, c'est pas neutre. Hein. Il y a des effets indésirables.
Voilà, c'est ça que je voulais dire. Oui, Fabrice, oui, j'ai un peu raccourci. Effectivement, c'est-à-dire que quand c'est prescrit, il faut absolument prendre son médicament, mais il y a quand même, quel que soit le médicament, des effets secondaires, des effets nocifs. Et c'est vrai que actuellement, les médecins, avant, c'est vrai que c'était facilement prescrit, évitent de prescrire. D'ailleurs, si vraiment il y a vraiment beaucoup de vomissement, oui, mais prendre un anti-émétique, un anti-vomitif, ce n'est pas si anodin que ça, vu le mode de fonctionnement. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui ils tendent à diminuer certains types de prescriptions, mais effectivement c'est encore prescrit, il faut le prendre si ça va pas. Attention toutefois de comme pour tout médicament pardon, de ne pas en abuser et de voir avec son médecin si c'est réellement nécessaire ou si justement on peut s'en passer parce que ce n'est pas anodin, c'est pas un bonbon hein, attention hein, on est bien d'accord, même si c'est courant d'avoir comme prescription effectivement du Motilium. Il y a quelques années c'était plus du Primperan. J'en ai moi-même pris et je pense qu'on est beaucoup actuellement et même dans les personnes qui sont actuellement en train d'écouter l'émission qui ont dû prendre et du Motilium et du Primperan. Mais effectivement, si on peut s'en passer, évidemment, c'est toujours mieux pour la santé, mais toujours, toujours consulter un médecin et écouter ce que dit le médecin. Lui seul est à même de dire ce qu'il faut ou ne pas faire.
Merci beaucoup pour ces précisions. Célia Charlet, à l'époque, on gardait quand même, enfin, on fait partie de cette génération, en tout cas moi, où on gardait dans les placards, les parents gardaient dans les placards des antibiotiques, plein de médicaments, et on était là à faire notre petite cuisine des fois. Heureusement que les mentalités évoluent, parce que on s'étonne pas qu'on soit tous fous aujourd'hui. Merci beaucoup, Célia Morès. Vous allez faire quoi pendant ces vacances?
Eh ben écoutez, je vais essayer de me détendre, profiter effectivement du soleil. Enfin, j'espère qu'il y aura bien beaucoup de soleil et puis pour repartir sur de bonnes bases à la rentrée et puis effectivement travailler quand même un petit peu puisqu'on a toujours du travail. Hein, ça s'arrête jamais quand on est passionné.
Oh oui.
Mais effectivement, voilà, c'est aussi se détendre et prendre un petit peu de bon temps avec mes amis, ma famille.
Bon, eh bien, écoutez, je vous souhaite d'excellentes vacances et on va se retrouver donc à la rentrée en pleine forme. D'ici là, cette émission, vous pourrez la retrouver à partir de dimanche à 18h en podcast sur nutriradio.fr dans la partie médias et podcasts et sur toutes les plateformes de streaming audio. Au revoir, Célia.
Au revoir, Fabrice.
C'est le retour de la musique tout de suite sur Nutriradio.